Attention, c'est pas 8 mai. Il y a deux jours, on va dire 6 mai. Attention, mais aujourd'hui, c'est oui. Que votre oui soit oui. Attention, hein, c'est un jour de foi. Bon, hein, on est là pour affirmer notre foi. On est là tous ensemble. Hein, ça fait plaisir. On est tous unis par un même amour, une même foi. Saluez-vous les uns les autres. On salue au passage. Il y a des personnes qui sont... On a entendu notre frère et son épouse là, qui sont de passage. S'il y en a d'autres qui sont de passage, bienvenue. Hein, on est là donc pour profiter de ce moment. Alors, vous m'entendez, hein, et pour vraiment eh bien donner ce temps au Seigneur. Alors c'est vrai que il y a des remous toujours, vous savez, c'est des jours fériés, tout ça. Bon, alors il y a des absences. Mais enfin, on est content de nous retrouver. On aurait aimé que Marc soit là, vous savez maintenant pourquoi. Hein, il y a eu effectivement des problèmes avec la compagnie et avec la validité des billets. Quoi. Vous savez, ça fait partie, je dirais, des choses qui se passent. On est désolé, on est contrarié, on aurait voulu que... déjà, les baptêmes étaient prévus le 1er mai. Bon, Marc a su qu'il prolongeait de 8 jours pour la mission au Canada. On avait dit le 8 mai, ça aurait été aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'était pas là. Oui. Bon, finalement, c'est que les baptêmes, on a reporté. Et ça a été sûrement plus sage au 26 juin. Donc, je nous appelle à réagir en homme et femme de foi dans ces cas-là, vous savez. La vie chrétienne, et ça nous prouve qu'il y a parfois aussi des contingences, il y a des contretemps, il y a des plannings qu'on est obligé de revoir. Et je crois qu'il faut avoir assez de foi pour se dire que finalement, eh bien, non seulement Dieu s'en arrange, mais je dirais même plus, ça l'arrange, même si parfois ça nous dérange. Et en disant ça, je me situe en plein dans le centre de ce que j'ai à cœur de partager avec vous donc ce matin. C'est que notre temps est très précieux, il passe vite, mais il faut savoir le gérer au mieux. C'est le thème qui va être partagé dans les groupes de maison pendant le mois de mai. On va plus parler du temps perdu, souvent. Ce matin, je ne vais pas porter l'accent sur le temps perdu, mais je vais plutôt parler du temps racheté. Racheter le temps. Et dans les groupes de maison, le mois prochain, après, si on peut, on parlera du temps, je dirais, le temps... je vais l'appeler le temps gagné. Temps gagné. Il y a le temps perdu, il y a le temps racheté, le temps gagné. Et ça fait partie des groupes de maison. Si ça vous intéresse, là, et j'en profite quand même pour rappeler qu'il y a des groupes de maison, des gens qui se retrouvent en semaine chez eux. Et il n'y a plus de son article. Et donc, contactez les responsables et essayez de vous joindre à ces groupes de partage. Mais c'est quand même important. Et peut-être que celui qui peut, dans la semaine, passer sa soirée avec des frères et sœurs et qui ne le fait pas, peut-être qu'aux yeux de Dieu, là, il a perdu sa soirée. Attention, mais il faut se poser la question. Donc ce matin, je veux parler de racheter le temps, et sans perdre de temps, je vous invite à incliner vos cœurs et à demander l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous venons ce matin encore à l'écoute de ta parole sur un sujet qui est tellement important. C'est-à-dire, ça fait partie de notre quotidien, de bien gérer notre temps. Et tu as des choses à nous dire, beaucoup de choses sûrement, mais que ce matin, eh bien, que ce soit pas un message de plus qu'on va entendre et qu'on va s'empresser d'oublier, Seigneur, mais que ce soit vraiment une parole qui nous touche, qui nous remette peut-être en cause dans certains domaines, et surtout qu'on puisse eh bien, mettre en pratique et pour eh bien, avancer encore Seigneur, dans notre relation avec toi, et qu'on puisse progresser, et que tout soit vraiment pour ta gloire, Seigneur. Je te le demande, au nom de Jésus. Amen. Alors, que dit la parole de Dieu? Je vous invite déjà à prendre un psaume, qui est le psaume 90. Et si je vous demande de qui le psaume 90, spontanément, il y en a qui dirait de David. Mais non. Il est de Moïse. C'est le seul psaume écrit par Moïse, psaume 90. Donc on va lire des versets 1 à 12, si vous voulez bien. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu étais pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Le jour de nos années s'élève à 70 ans, pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je m'arrête là, on lira la fin du psaume, hein, en fin de message. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça ne veut pas dire que tous les jours vous faites rajouter, vous faites le bilan, vous avez plus un, plus un, plus un. Bon, on peut le faire, mais je m'amuse à le faire, figurez-vous. Hein. Aujourd'hui, j'en suis à 26 020 jours. Gloire à Dieu. Je remercie Dieu pour les 20, 26 000 déjà. Mais c'est pas ça. Hein. Mais il faut faire en sorte, ça veut dire faisons en sorte que chaque jour compte pour Dieu. Hein, qu'il n'y ait aucun jour, en fait, que Dieu ne prenne en compte. Eh oui. Que nous aurions, parce qu'on aurait perdu notre temps, parce qu'on aurait perdu notre journée à ses yeux. N'oublions pas que Dieu note tout ce qu'on fait et qu'un jour on aura des comptes à lui rendre. Donc c'est une mise en garde, vous voyez, contre le temps perdu et un appel à faire preuve de sagesse. Donc première idée exprimée dans ce psaume là, c'est Dieu est hors du temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué des expressions là. Versets 1 et 2, de génération en génération. Ça veut dire les générations passent, mais Dieu reste. Avant que les montagnes soient nées, que tu aies créé la terre et le monde. Dieu existe avant toute création, c'est lui le créateur. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et verset 4, Seigneur, 1000 ans sont dans tes yeux comme un jour d'hier quand il passe et comme une veille de la nuit. Affirmation, vous connaissez que Pierre a repris ici, 2 Pierre 3:8, vous ne devez pas ignorer que devant le Seigneur, un jour c'est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Donc Dieu se trouve toujours dans le présent. Ça c'est vrai. Il n'a ni commencement ni fin, il n'a pas de passé ni de futur. Il est je suis. Le je suis qui s'est révélé, vous rappelez Moïse, dans le buisson ardent, je suis. Non pas celui qui a été, celui qui sera. Pas de commencement, il est l'éternel présent. Et ça, on a du mal des fois à concevoir. Pensez, on en a fait mention tout à l'heure, hein, le décalage horaire, ce qui a causé d'ailleurs des problèmes à Marc. Là, hein, ce qui faisait que, si Marc n'est pas tenu compte du décalage horaire, même quand il appelait en France, bon, quand, à Cercy, pour lui, je pense qu'il doit être à 5-6 heures du matin. Bon, vous voyez, comment un endroit le soleil se lève, un autre endroit il se couche. Là, c'est déjà, tout est relatif. Et Dieu, pour lui, il est hors du temps, et je dirais du même coup, il est présent à tout ce qu'on fait. Donc c'est angoissant pour ceux qui font le mal, mais pour nous, c'est rassurant. Nous, en tant que ses enfants, on sait qu'il est toujours à nos côtés, avec son livre. Donc ça, c'est rassurant, Dieu est toujours présent à ce qu'on fait. Et là où parfois nous on pourrait avoir l'impression, oh là là, qu'est-ce que j'ai passé comme temps à faire ceci, cela, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps. Et ça, c'est d'après nos références. Parce que peut-être que pour Dieu, ça ne représente rien du tout. Il est maître du temps, et pour lui, ce temps qui m'a paru long, pour lui, c'est une parenthèse, c'est un bref instant. Et ça, c'est important d'en prendre conscience, parce que là où, en termes de rentabilité pour nous, vous savez, on serait tenté de dire j'ai perdu mon temps, Dieu raisonne autrement. Peut-être que Dieu, eh bien, ce temps-là, il a su l'utiliser. Vous savez, on demandera à Marc quand il sera revenu. Hein, comment il a géré ses contretemps avec Dieu. Et on sera sûrement étonné de voir que Dieu s'est servi de ça pour agir. Donc si Dieu est hors du temps et il traverse les siècles de façon immuable, nous on ne peut pas en dire autant chacun de nous. Hein, nous on est des êtres créés, ça passe vite et même très vite. Et ça c'est la deuxième idée qui est exprimée dans le psaume. Et les images utilisées sont verset 5, comme un songe. Au verset 6, comme l'herbe qui fleurit le matin, se trouve coupée, fanée le soir. Et au verset 9, nous voyons nos jours s'évanouir comme un son ou comme un murmure. Vous voyez, ça passe vite. Ça passe vite, mais en disant ça, c'est quand même, il y a une notion très subjective et très relative, en fait. Nous, on mesure le temps, bon, les secondes, hein, les minutes, les heures, les jours, les années. Bon, on mesure le temps. Mais ce que ça veut dire que, par exemple, la vie d'un enfant qui va mourir très jeune, hein, il a à peine né, il meurt, et une personne qui va mourir en 100 quelques années, est-ce qu'il y a une vie qui a plus de valeur pour Dieu que l'autre? Sûrement pas, je ne pense pas. C'est subjectif parce qu'il y a des minutes qui paraissent très longues. Vous savez, quand on attend un coup de fil, si on est angoissé, hein, il y a un pronostic vital en jeu, il y a vraiment quelque chose d'important, ça paraît très long. Puis il y a des minutes qui paraissent très courtes. Et on est tellement heureux, tellement dans la joie, qu'on voudrait que ça dure toujours. On a déjà un avant-coup d'éternité parfois, mais bon, on voudrait que ça dure. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a fait dire à notre poète Lamartine, vous connaissez sûrement, hein, il était au bord du lac du Bourget, hein, et Il s'est écrié « Autant suspendez ton vol, et vous, heureux propice, suspendez votre cours. » Il aurait voulu que le temps s'arrête, que son amour soit immortalisé. Mais dans la Bible, je suis un poète, mais la Bible, en Genèse 29-30, vous savez que les 7 années que Jacob a dû passer, en plus des 7 qu'il venait déjà de passer avant d'épouser Rachel, hein, il est écrit « Elles furent à ses yeux comme quelques jours. » Pourquoi ? Parce qu'il l'aimait. Vous voyez ? Ça, c'est subjectif. Puis c'est relatif. C'est très... Même moi, il m'arrive souvent, depuis très longtemps, même quand je travaillais, je fais une sieste de 5 minutes, tout début d'après-midi. Je m'allonge, je m'endors rapidement, et je me réveille. Ça durait 5 minutes, pas plus. Ça, je fais. Mais quand je me réveille, je ne sais plus où je suis, je ne sais pas. Je suis perdu, comme si j'avais dormi des heures et des heures et des heures. Et ça, tu prouves, c'est très subjectif. Ça a duré 5 minutes, et j'ai l'impression d'avoir mis 12 heures. Et c'est aussi relatif. Là, je m'adresse au forum, débat, calcul mental. Comprenez qu'un enfant qui a 8 ans, eh bien, une année représente un huitième de sa vie, d'accord. S'il doit vivre 80 ans, pour lui, une année, ça va faire 10 ans, un huitième. Donc ça fait 3650 jours. Une personne de 80 ans, un huitième de sa vie, et bien ça va faire quoi en fait ? Une année, ça représente un 80e, et un huitième, ça fait une année, ça fait 365 jours. Donc tout est relatif, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Donc ça veut dire que pour une personne âgée, l'année elle paraît beaucoup plus courte, et oui, le temps s'accélère. Mais paradoxalement, celui qui ne fait rien de ses journées, qui est oisif ou un retraité qui n'est pas occupé, les années sont courtes, mais les journées sont longues. Tout est relatif. Bon. Pensez à un événement, ça s'est passé déjà il y a 10 ans maintenant. Quoi ? Je pensais que c'était hier. On a vraiment l'impression que c'était hier. Ça va tellement vite. Hein. On voit nos journées s'évanouir comme un son. Allez. Il y a quelqu'un un jour qui s'amusait à calculer, à comparer notre existence humaine à une journée qui débute à 7h du matin. Et ça donne ceci. Si vous avez 15 ans, pour vous, les 10 ans, 25 ans. Si vous avez 35 ans, il est 15h. Si vous avez 55 ans, il est 20h. Si vous avez 75 ans, il est 23h. Les 12 coups de minuit vont bientôt sonner. Et oui, les aiguilles tournent. Soyons prêts. Et une troisième idée, c'est qu'un jour, on va quitter cette terre. On va abandonner notre enveloppe charnelle, retourner à la poussière, et ce jour-là est fixé par Dieu. Vous avez lu comme moi, verset 3, « Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis aux hommes, retournez. » Et c'est Dieu qui décide, qui donne l'ordre. Et on pourrait ajouter une quatrième idée, elle n'est pas exprimée de façon très claire, très explicite dans ce psaume, mais elle est quand même sous-jacente. Parce que lorsque Moïse parle de la colère de Dieu, hein, vous avez verset 9, 7 et 9, « Ta colère, ta fureur, verset 9, ton courroux, et verset 11, ton courroux, et la crainte qui. » Ça nous rappelle que si on meurt, c'est parce qu'il y a eu désobéissance, il y a eu châtiment de Dieu, il y a eu colère de Dieu. Et Jésus est venu donc, nous libérer de ce châtiment, nous délivrer. Mais depuis ce péché originel, il n'y a plus aucun échappatoire possible. En fait. La mort, c'est une porte par laquelle tous, un jour ou l'autre, on passera. C'est obligé. Il n'y a pas de dérivation, bretelle de dérivation, il n'y a pas d'autre issue, on est obligé de passer par cette porte. Et on ne peut pas recommencer notre vie non plus. La réincarnation, vous savez, comme elle est enseignée dans certaines philosophies, la réincarnation n'existe pas. Vous connaissez le Proverbe 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, il y a le jugement. C'est clair. Et ce jour-là, le jour de notre mort, qu'est-ce qu'on fait ? On quitte le temps et l'espace, et on se trouve dans l'éternité. C'est pas compliqué. Donc, ça, une certitude de foi, l'éternité, elle est devant nous. C'est-à-dire qu'on l'accepte ou pas, et bien quand on vient au monde, je compare ça un peu, on est propulsé dans l'existence, un peu comme une fusée. Dans l'espace, notre voyage va durer un certain nombre d'années, seul Dieu connaît, d'ailleurs pas nous, et destination éternité. Une vie qui finit plus, mais avec Dieu ou sans Dieu, c'est là toute la différence. Si moi aujourd'hui j'ai plus de 70 ans, ça veut dire que mon corps physique il fonctionne déjà depuis plus de 70 ans, 72. Mais celui que je suis, moi je suis esprit, une âme dans un corps. Celui que je suis, l'esprit là, n'a pas vieilli, vieillira jamais. Je suis éternel. Et oui. Et ça veut dire que, hein, et ça fait du bien de le dire, parce que tous les uns, quel que soit votre âge, si on se tourne tous face à Dieu, on a tous le même nombre d'années pour nous, l'éternité. C'est pareil. Ben oui. Ça fait du bien de se le dire régulièrement. Pourquoi? Parce que ça veut dire que ça relativise nos petits problèmes. Qu'est-ce que c'est que le problème d'aujourd'hui face à l'éternité? Et il est bon de se rappeler ce que disait l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 4,16, « Si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. » Ça veut dire qu'au travers des épreuves, de tout ce que j'ai à vivre, qui des fois n'est pas agréable, même l'usure des cartilages, des douleurs et tout, j'acquiert des qualités qui me font ressembler à Jésus, et donc, et je m'améliore, spirituellement, je me perfectionne. Mon être intérieur se renouvelle. Et n'oublions pas que, bon, on fait passer sur terre, on est des pèlerins, notre patrie dans le ciel, mais de ce fait, ce que je fais ici-bas conditionne mon éternité. Ce que je fais ici-bas conditionne mon éternité. Donc, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est notre défi, en fait. Mais pas seulement bien compter les jours, mais racheter le temps. Et ça, c'est une notion qui est exprimée, donc on va aller un peu plus loin. Et là, si je vous invite à prendre deux textes écrit par l'apôtre Paul. Le premier, on va lire Éphésiens 5. Si vous voulez prendre Éphésiens 5, on va lire des versets 15 à 21. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges de Dieu, du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Donc vous avez noté là, au verset 16, donc, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Et si vous prenez maintenant Colossiens chapitre 4, verset 5, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Bon, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Donc essayons de comprendre ce que veut dire racheter le temps. Vous savez, enfin, vous ne savez pas qu'il existe ou qu'il existait, parce que ça peut être changé maintenant. Pour les personnes qui n'avaient pas cotisé suffisamment d'années, de racheter des points de retraite pour bénéficier d'une retraite complète. Ça se faisait. Alors, est-ce qu'on peut racheter le temps comme on aurait pu racheter des points de retraite, vous savez, ou comme on rachète des bons de participation, qui donnent droit à certains privilèges? On aurait la possibilité de racheter, pour moi je me suis converti à 45 ans, j'aurais la possibilité de racheter les 45 années passées sans Dieu. Ce serait bien. Mais en fait, c'est pas prévu comme ça. C'est pas dans le plan de Dieu. Vous savez que régulièrement, heure d'hiver, heure d'été oblige, on remet les pendules à l'heure. On recule les aiguilles, on les avance. On gagne et on perd une heure de sommeil, une heure de soleil. Est-ce qu'il y aurait un moyen qui nous permettrait, nous, d'arrêter le temps, de faire reculer les aiguilles? Comme font des personnes, vous savez, qu'elles sont en retard, elles font quoi? Alors qu'elles reculent. Ah, ben pourtant, j'ai tant mon heure. Vous connaissez ça? Non, ne le faites pas, vous. Vous savez, des fois, on aimerait que le temps s'arrête. Pas la pendule, le temps. Est-ce que c'est possible d'arrêter le temps? Bien sûr. Dieu l'a fait. Il peut le faire, il l'a fait. Il l'a fait à deux reprises. Je vous rappelle dans l'Ancien Testament. Hein. Dieu a arrêté la marche du soleil. Vous relirez dans Josué 12, chapitre 10, versets 12 à 14. Pour permettre à Josué de profiter de sa victoire sur les Amoréens, à Gabaon, Josué a dit « Soleil, arrête-toi ». Dieu a appuyé sur le bouton « Pause » et il dit « Le soleil s'est arrêté ». Et la lune s'arrêtait pratiquement une journée. En fait, c'est plutôt, je dirais, que la Terre qui a arrêté de tourner sur elle-même. Mais imagine un peu le temps qui s'arrête. Quel rêve! Sauf que dans ce cas précis, ceux pour qui la journée s'arrêtait, enfin le temps s'arrêtait, ils étaient engagés dans une bataille terrible, et je peux dire que la journée a dû leur paraître très, très, très long. Et l'autre cas, c'est en 2 rois 20, 8 à 11, vous relirez aussi, vous connaissez, quand le prophète Isaïe annonce au roi Akaz qu'il va être guéri de sa maladie. Et donc, en verset 11, on dit « Le prophète invoqua l'Éternel, celui-ci fit reculer de 10 degrés l'ombre sur les degrés d'Akaz. » Donc Dieu appuyait sur le bouton « Return ». Le temps fait marche arrière. Et là, Dieu a pu. Elle a enfreint les lois naturelles, effectivement. D'accord ? La terre a tourné au sens inverse. Et donc, en fait, c'est du jamais vu. Et Akaz a vécu 15 ans de plus. Donc, c'est possible. Ça ne m'étonne pas, Dieu est maître du temps. Mais il ne faut pas trop compter là-dessus non plus pour, effectivement, nous permettre de racheter le temps perdu, nous permettre de rattraper le retard. Je dirais que c'est exceptionnel. Alors, que signifie dans la Bible racheter le temps ? Eh bien, dans les deux passages que je vous ai lus dans Colossiens et Éphésiens, le mot grec fait référence à un terme commercial qui voulait dire tirer le meilleur parti possible des circonstances en achetant tout ce qu'il y a de disponible. Autrement dit, c'est disponible, c'est utile, je prends, j'achète. Et nous, par rapport justement, le chrétien par rapport au temps, ça veut dire je me rends disponible. Je veux être utile à Dieu, je consacre mon temps. Donc je formule autrement, c'est-à-dire que je vais profiter de toutes les occasions favorables que Dieu me donne, en fait, pour lui être fidèle, pour accomplir sa volonté, pour témoigner en parole. D'accord. Donc je mets mon temps à sa disposition. Et là, une expression qui va vous aider à comprendre, vous connaissez sûrement, c'est se racheter une bonne conduite. Vous savez, quand un condamné a purgé sa peine, il est remis en liberté surveillée, souvent, même avant sa peine soit terminée, on va le remettre en liberté surveillée, et il doit manifester par son comportement qu'il s'est amendé, qu'il a pris des bonnes résolutions, qu'il a changé. Et si on le retrouve des années après, il a un travail honnête, il gagne bien sa vie, il est parfaitement intégré à la société, on dit qu'il s'est racheté une bonne conduite. C'était un chimie. De la même façon, nous chrétiens, on est des condamnés qui ont été graciés. La dette est acquittée donc, par le sang de Jésus. On l'a encore chanté, là. Merci pour la croix. Jésus a acquitté vraiment, il a payé la caution. Donc, il nous a racheté et on lui appartient corps et bien. Ça veut dire que, y compris notre temps, quand j'ai dit à Dieu je te donne ma vie, ça veut dire je te donne mon temps. Mon temps n'appartient plus. Il appartient. Je te donne tout, y compris mon temps. Dieu me laisse libre de gérer maintenant. Il me le confie comme des talents à ses serviteurs. Mais un jour, on aura des comptes à rendre. J'espère que Jésus pourra nous dire, c'est bien mon fidèle serviteur, tu as été fidèle dans le temps que je t'ai confié, entre dans la joie de ton maître. Enfin. Donc Jésus a racheté le temps, et moi je dois le racheter en ce sens, en lui, c'est-à-dire je dois le faire sien. Mon temps doit devenir son temps. Bon, je vais peut-être le formuler différemment, mais je crois que vous allez finir par comprendre. Parce que c'est pas évident de départ, c'est de faire passer. Je pose la question, quel temps donnons-nous à Dieu ? Et si elle a la dîme de nos revenus, il pourrait bien y avoir la dîme de notre temps. Vous savez combien ça fait la dîme des 24 heures ? Le dixième ? Ça fait 2h24. Maintenant, si on pense que Dieu, dans ses commandements, il a dit le septième jour m'appartient, un jour sur sept, ça fait un septième. Alors on tombe alors sur 24 heures, ça fait. 3 heures par jour. Eh oui, on est loin, bien sûr. Alors là, je parle du temps strictement consacré à Dieu. Je ne parle même pas du temps qu'on devrait consacrer aux autres. Et pour moi, le temps, ça s'écrit comment temps ? T-E-M-P-S. Et moi, j'aime bien, vous savez, les initiales. T-U-E-E-M. Mon P, premier, S, souci. Tu es mon premier souci. Le temps, c'est... Et c'est ce qu'on a de plus précieux, qu'on a plus de mal à donner. Donner du temps à quelqu'un, c'est meilleur cadeau pour lui. On a du mal. Donc, à chacun de se poser la question, il ne faut pas culpabiliser, mais les temps sont courts. Il y a une évidence. Le passé, il est passé, donc je ne peux plus rien. L'avenir, il est à venir. Je ne connais pas, je ne peux rien. Qu'est-ce que je peux vivre ? Le présent. Et le présent, c'est quoi ? Un présent, c'est un cadeau. Le présent, c'est le cadeau que Dieu me donne pour vivre au jour le jour. Donc, à moi de bien l'utiliser, m'en servir. Mais il y a un ennemi qui est là, qui rôde et qui va tout faire pour que ce cadeau, on ne puisse pas s'en servir, justement. Il va essayer de récupérer ce temps à son avantage. Il va s'arranger pour que le temps soit pas utilisé ou mal utilisé. Et ça va faire quoi? Ça va faire du temps vide, je fais rien, je paresse, le temps est vide. Du temps surchargé, j'en fais trop. Okay, oui. Du temps où je rêve, je ne suis pas dans la réalité. Et oh, atterri là. Ou alors à contre-temps. Il y a temps pour tout, mais à contre-temps. Et dans tout ça, au lieu de servir Dieu, eh bien, je sers Satan. Et à moi de choisir. On ne peut pas servir deux maîtres. Nul ne peut servir de maître, à moi de choisir. Donc à moi de me racheter une bonne conduite, à moi eh bien, de faire bon usage de cette liberté retrouvée. Et si j'ai entre les mains un couteau de cuisine, je peux éplucher mes légumes, je peux couper ma viande. Bon usage. Il y en a qui vont utiliser ce couteau pour blesser quelqu'un, pour le tuer. Mauvais usage. Le couteau en lui-même, il est ni bon ni mauvais, c'est l'usage que j'en fais. Bon. Tout ce que Dieu me donne est bon pour moi. Ce qui change, c'est l'usage que je vais en faire. Le temps que Dieu me donne, il est ni bon ni mauvais. Mais selon l'usage que je vais en faire, il sera perdu ou racheté, ou gagné. Donc à moi de décider, et ce qui va supposer des renoncements, des activités pourtant légitimes. Eh oui, et ça c'est le prix à payer. Pour acheter le temps, eh oui, il faut payer pour acheter. Tout se paye. Alors comment faire concrètement? Le verset de Colossiens 4, 5, je vous lis, j'ai pris deux traductions différentes parce que ça permet de mieux comprendre quand c'est traduit autrement. La Bible du Semeur nous dit, et du Semeur, conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Et la parole vivante, c'est encore plus explicite, c'est que la sagesse chrétienne règle votre comportement envers les non-chrétiens. Sachez trouver le bon moment pour leur parler en vous adaptant aux circonstances, en tirant profit de toutes les circonstances favorables. Et là, à partir de ces deux traductions différentes, on comprend qu'il s'agit d'un contexte de relation avec des gens qui ne sont pas chrétiens, puisqu'on parle de ceux du dehors, ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu et les non-chrétiens, et des occasions qui nous sont données pour pouvoir leur témoigner. Ce qu'il est mis, trouver le bon moment, s'adapter aux circonstances, tirer le meilleur parti possible donc des situations dans lesquelles Dieu nous place. Autrement dit, user du temps favorable pour témoigner. Et la question se pose, qu'est-ce que le temps favorable? Bon, ça va en fait, hein. J'espère que si vous trouvez le temps long, c'est relatif, hein, j'espère que, hein, j'ai pas de montre là, ah, si, j'en parlais celle de Colette, j'en ai pas trop. Mais aujourd'hui, normalement, puisqu'on parle d'abord du temps, hein, j'espère que je ne vais pas abuser de votre temps. Alors, quel est ce temps favorable? Pour Dieu et pour moi. Temps favorable pour Dieu. On peut l'envisager sous deux aspects. Ça va être le temps où Dieu se montre favorable à mon égard, et c'est le temps que Dieu trouve, lui, d'après son calendrier, le plus favorable. Alors, le temps où Dieu se montre favorable, c'est le temps de sa patience, en fait. C'est le temps où il nous fait grâce, c'est le temps que nous vivons, c'est le temps de l'Église, temps de la grâce. C'est maintenant. Dieu nous est favorable. Grâce à Jésus qui a été la victime propitiatoire. Enfin, bon, je ne m'étale pas là-dessus. Maintenant, on va venir où, justement, Dieu va mettre un terme à sa patience. Et là, ce sera le temps du jugement. Châtiment éternel pour les uns et bonheur éternel pour les autres. Pierre nous dit en 2 Pierre 3, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc pour l'instant, le temps de la grâce, mais un jour est fixé, il y aura le temps du jugement, hein, et de, donc le temps du châtiment pour d'autres, voilà, malheureusement. Et ensuite, j'ai dit, le temps favorable, c'est le temps où Dieu intervient. Et quand Dieu intervient, c'est toujours le bon temps pour lui, toujours. Dieu, il a sa montre, il a son calendrier, hein. Je ne sais pas, à mon avis, si c'est une montre suisse, une montre à quartz, si une montre à cristaux liquides, ou si c'est un balancier, bon, je ne sais pas. Et c'est pour ça que, heureusement, que moi je me fie à la montre de Colette, parce que si je donne le message en fonction de la montre de Dieu, ce soir, il y a encore. Hein. Ben oui. Parce que Dieu. Bon. Hein. Mais, est-ce que vous avez noté dans la Bible les mots qui reviennent souvent? Au temps marqué, en son temps, selon le dessein de Dieu. Dieu a son planning, son timing. Bon. Et toute l'histoire de l'humanité se déroule comme ça, si vous voulez, à des dates précises. Chaque fois que Dieu suscite un prophète, vous voyez dans la Bible, telle année, tel mois du règne de tel roi. C'est inscrit dans la chronologie. Donc Dieu, hors du temps, il intervient dans l'histoire de l'homme. Et Jésus est venu sur terre à une date précise prévu, voulu par Dieu. Puisque Jésus devait donner sa vie, devait être crucifié au nom de Dieu, Jésus ne pouvait venir qu'à l'époque où la crucifixion était un supplice qui était d'usage, à l'époque des Romains. Si Jésus était venu en France au moment de la Révolution, il aurait sûrement coupé la tête, guillotiné. Dans un autre pays, si vous voulez, bon, hein, on aurait pu le fusiller, pendre, injection létale, chaise électrique. Bon. Mais il ne fallait pas que Jésus seulement meure, il fallait que son sang soit versé, totalité. Jésus a versé tout son sang. Et dans le plan de Dieu, c'était prévu le supplice de la croix, avec tout symbolisme de la croix, bien sûr, je passe. Donc, c'était prévu pour Dieu. Et quand Jésus va s'écrier « Tout est accompli », ce jour-là, c'est vraiment l'heure du salut de l'humanité, hein, qui a sonné dans le plan de Dieu. Christ est mort au temps marqué, Romains 5, 6. Donc c'était à l'horloge de Dieu, c'était l'heure. Et le temps est venu où Jésus va revenir, jugé, châtié, et c'est un temps qui est inscrit aussi, et je vous donne la référence, Apocalypse 9, 15, et l'on déchaîna les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure, et le jour, et le mois, et l'année. C'est précis, non? Donc Dieu a son calendrier, c'est sûr. Quand il agit, c'est pour lui le temps favorable. Bon, ça, c'est le temps favorable pour Dieu. Quel est le temps favorable pour moi, pour nous? Il faut se poser la question. D'abord, c'est le temps présent. J'ai dit tout à l'heure, on n'a que le présent. Ensuite, c'est le temps, de préférence, le temps de la jeunesse. C'est le temps où on est quand même, je dirais, on a plus de capacité, on est plus réactif, on est plus disponible, on peut plus s'investir. Donc, c'est quand même beaucoup plus favorable pour nous. Parce qu'un jour viennent des années où, malheureusement, le corps se fait vieux. C'est cette période de vie qui est décrite dans Ecclésiaste 12. J'aime bien parce que c'est très poétique. Vous savez, on ne parle pas des cheveux blancs, on parle de l'amandier qui fleurit. On ne parle pas que, qu'on devient sourd, on dit la porte à deux battants se ferme sur la rue. J'aime bien. On ne dit pas que les articulations s'enraidissent. On dit que la sauterelle elle devient pesante. Hein. Vous lirez, mais j'aime bien ce passage-là. C'est fabuleux. Mais ça veut dire qu'on vieillit. Bon. Mais juste avant... L'auteur Salomon avait écrit au verset 3 « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent. » Et c'est vrai que si vous contactez beaucoup de personnes âgées, moi ça a été souvent mon cas, on a beaucoup de mal à les amener à faire une démarche. Pourquoi ? Parce qu'elles ne comprennent plus trop, le cœur il s'endurcit, vous savez, la parole, elle ne trouve plus tellement l'endroit pour toucher le cœur. Mais bon, attention, ça arrive encore nous dernièrement, une personne de 97 ans, on allait la voir régulièrement, et un jour vraiment, je mettais souvent le sujet, je parlais du sujet avec elle, puis à un moment, elle décrochait. Vous voyez, ça décrochait, c'était plus à peine de continuer. Mais ce jour-là, elle a tout compris. Elle a dit oui, merci à Jésus, elle a vraiment compris. Et on était contents, et elle est morte le lendemain, la nuit qui suit. Bon. Vous voyez, comme quoi, bon, Dieu, elle avait pendant 97 ans. Bon. Donc, le temps favorable, c'est le temps de la jeunesse, c'est vrai. Hein. Et aussi, c'est le temps de la grâce. Hein. Je l'ai dit, c'est le temps que nous vivons. Paul, dans 2 Corinthiens 6, 1, 2, nous dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Il est dit au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici le jour du salut. » Donc, c'est l'exhortation de Paul à ne pas recevoir la grâce en vain. Et Paul, c'est de quoi il parle, lui, le persécuteur des chrétiens, qui a été sauvé par grâce. Et vous savez, quand il parle de racheter le temps, vous savez où il se trouve? Il se trouve en prison entre quatre murs. Et c'est là, entre quatre murs, mais il n'a pas perdu son temps. Parce que c'est là qu'il a écrit quand même les lettres aux Éphésiens, aux Philippiens, aux Colossiens et à Philémon. Et ailleurs, on voit Rome aussi, donc il sera face au gouverneur Félix, roi Agrippa et tout. Il va chercher à témoigner. Il profite des occasions. Rappelez-vous aussi, quand il était en prison à Philippe, faisant Philippe avec Silas, le geôlier qui s'est converti. Enfin, bon. Toute situation, Paul les mettait à profit. Donc ça veut dire que nous, on doit mettre autant de zèle, je dirais, et profiter de toute occasion pour témoigner de notre foi. Et Paul va communiquer son fardeau à Timothée. Et il lui dira, je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. De Timothée 4. Et moi je me souviens, quand j'étais jeune converti, des témoignages... Récit d'un jeune pasteur qui était zélé, profiter de toutes les occasions. Dans quelques exemples, ça m'avait frappé. Hein. Vous voyez une dame devant une vitrine, en train de regarder, elle a des belles choses, il s'approche comme ça, il dit, ah, son père, elle a des belles choses. Le problème, c'est que c'est cher. Vous savez que moi, je connais un endroit où il y a beaucoup plus belle et qui ne vous coûte rien. Ah bon ? Curiosité d'apprendre. Oui ? Eh bien, et de se mettre à parler. Vous avez besoin d'être sauvé. Hein. Sort de prix, mais Dieu vous donne. C'est gratuit. Il commence à témoigner. Une dame qui a l'air d'une vitrine. Donc, une gare ou un aérogare. Qu'il a vécu. Bon, il attendait, il s'est dit, donne-moi, j'utilise mon temps. C'est pour ça que je dis, Marc, peut-être, hein, on ne sait pas, il a peut-être des occasions. Il y a une âme qui passe avec son manteau de fourrure. Ça pourrait dire, ah, je vois que vous avez un beau manteau, là. Je ne trouvais pas que Dieu, il est quand même bon, hein, avoir donné aux animaux de quoi résister aux froidures de l'hiver. Quel Dieu créateur on a, il est bon. Mais vous savez qu'en plus, il vous aime, et non pas du Dieu créateur, ou du Dieu qui aime. Et c'était parti. Il voit une dame, un couple, avec un bébé. Il s'approche. Ah, quel beau bébé vous avez. Vous savez que c'est un beau cadeau. Vous savez que Dieu sait tout de la vie de votre bébé. Et témoignez, partiez. Moi, ça m'a aidé parce qu'au début, moi, je me dis, bah, oui, voilà une bonne façon de faire. Et si on en fait autant bon. Et donc, dans mon travail, bon, j'étais kiné, en fait. Bon. Hein, je me souviens, un jour, une dame, elle arrive, à un certain âge, elle était très, très grande. Puis moi, tout de suite, ah, qu'est-ce que vous êtes grande. Enfin bon, j'étais dit, bon, ça ne l'a pas vexé. Ah, elle ne m'en parlait pas. Hein, ça m'a toujours posé que des problèmes. S'il y avait une autre vie, hein, je vendrais plus le titre. Et là, tout... mais il y a une autre vie. Bon. Et voilà, c'était parti. Une autre fois, elle arrive, une autre personne arrive avec une baguette de pain. Elle est en retard, excusez-moi, j'ai voulu passer chez le boulanger avant que ça ferme, parce qu'après, je vais fermer, mais moi, sans pain, je ne peux pas vivre. Hein. Ah oui, vous entendez. Ben, vous avez raison, le corps, il a besoin, il faut le nourrir, c'est vrai. Mais votre âme, est-ce que vous pensez de nourrir votre âme? Et on témoigne. Mais en fait, on peut multiplier les gammes, c'est-à-dire qu'à chaque jour, il y a des occasions qui nous sont données. Et il faut rebondir à ce que disent les gens, ce que font les gens, leur métier, leur vécu quotidien. Il faut vraiment les brancher à partir de là. Bon. Si vous avez affaire à un assureur, demandez-lui au moins s'il est assuré pour son éternité. Oui. Vous avez un spécialiste contre obsèque, une salle d'arrivée, on a signé contre obsèque. On a profité de l'occasion. Est-ce que vous êtes... Pour l'au-delà, vous avez fait le nécessaire, il faut vous poser la question. Un électricien, vous demandez s'il est branché, hein, vraiment, hein, s'il est au courant, c'est la façon d'être en phase avec Dieu. Non, mais c'est de l'humour, en fait, bien sûr. Bon. Hein, chauffeur de taxi, 10 000, hein, voilà. Bon, est-ce que vous connaissez le moyen, l'itinéraire pour aller jusqu'en présence de Dieu? En fait, toutes les professions, il suffit de réfléchir un peu. Alors, on dit, ça ne fait pas très sérieux. C'est de l'humour, mais je vais vous dire. Hein, en fait, c'est une façon amusante d'arriver au sujet, et ça passe beaucoup mieux. Ça passe beaucoup mieux parce que les gens ils ont envie. Et en venant encore ce matin, bon, j'ai pas pu aller plus loin. Il y avait un couple, effectivement, qui avait bébé. Moi, j'aborde pas souvent les gens dans le métro. Et bien, je dis, allez, faut y aller. Et ça demande quoi, un peu d'imagination, puis un peu d'audace. Vous devez voir beaucoup, mais bon. Là, je t'ai parlé. Malheureusement, ça fait à descendre. Si vous avez un beau bébé, c'est un beau cadeau, remerciez Dieu. Le père était très content, je vous remercie. On peut en dire plus, mais comme quoi, mais et si après on avait du temps, on peut parler. Il faut profiter de l'occasion. Toute occasion. Voilà, Dieu veut qu'on rachète le temps. Christ est. Hein, on passait de l'humour, j'irai à l'amour des fois. Hein. Bon, c'est pas dans tout le monde, mais chacun à sa façon. Hein, mais c'est pour dire que on ne peut pas être toujours avec des gens comme ça qui malheureusement ne connaissent pas et ne pas trouver le moyen d'aborder. Saisir les occasions. Je mets mon temps à sa disposition. Christ est annoncé, je m'en réjouis, c'est pas le fait. Et il y a beaucoup de temps bien sur le temps. Allez, aujourd'hui c'est spécial, hein, à la montre de Colette, je me donne encore quelques minutes. Là. On va reprendre Éphésiens 5, rassurez-vous, hein. J'ai bientôt quand même terminé. Éphésiens 5, il y a trois conseils là, du passage qu'on a lu tout à l'heure, à partir des versets 15 à 20. Bon. On l'a lu, je ne relis pas le passage. Hein, mais prenez soin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages, et à faire preuve de sagesse. Et c'est cette sagesse qui va nous éviter de nous laisser piéger souvent. Qui dit sagesse dit organisation, planification, discipline, on est sage. Salomon, qui était réputé, avait dit un temps pour toute chose. Ça veut dire, et parmi ce temps, il y a le temps de Dieu qui est prioritaire. Est-ce que c'est le cas? Chacun se pose la question. Mais pourquoi, comment faire? L'agenda, c'est quand même un outil qui est quand même pratique, indispensable. Il y a des rendez-vous que Dieu a prévus pour chacun. Deux jours, on vous parle à certaines dates. On est conscient que c'est que ce que Dieu veut que j'y sois, je le note. Et après, je vais pas rayer pour faire quelque chose qui me plairait mieux. Ce serait plus agréable. Bon. Ça veut dire que si on y tient, on retient, on maintient, et on s'y tient. Tiens, tiens. Eh oui. Voilà. Vous savez, si on fait un programme d'activité, souvent, bon, en ce moment, vous êtes privé, vous n'avez pas votre feuille d'annonceur. Hein. Mais quand il y a une feuille, hein, c'est pour ça. Vous regardez ces programmes, il faut la lire. On se réfère à la feuille d'annonce. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de feuille, mais l'activité continue quand même. Bon. Faire preuve de sagesse, c'est aussi se discipliner. Bon, hein, parce qu'on a beau s'organiser, on a mis le temps libre, mais qu'est-ce que je vais faire de ce temps-là? Et souvent, on a passé du temps. On a mis un temps libre pour prier, une heure pour prier, et puis voilà. Ah, il y a la vaisselle à faire, il y a du ménage, il y a la tâche juste là, puis voilà. Le temps pour prier, on l'a consacré en grande partie à faire autre chose. On n'a pas su discipliner. Ou c'est la télé, c'est l'ordinateur, enfin bon, c'est les loisirs. Tellement de distractions, il faut se discipliner. Bon. Toute heure perdue à des futilités, elle n'a pas été rachetée pour Dieu. Hein. Bon. Attends, attention, hein. On a le droit de se détendre, on a le droit, attention, il ne faut pas tout mélanger, mais je veux dire, hein, attends pour Dieu. Et enfin, cette sagesse, elle suppose qu'on a une qualité de relation avec Dieu. C'est pour ça que c'est important. Hein. Vous savez, comment savoir? Hein, souvent, quand j'ai raté une occasion, c'est dans un moment où, quelque part, je suis en tiédeur, hein, dans ma relation spirituelle avec Dieu, en fait. Hein. Ça veut dire que j'ai pas pris le temps qu'il fallait. Parce que, et le soir, ah zut, j'aurais dû. Et j'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'étais pas à l'écoute. Martin Luther disait, j'ai tant à faire demain que je consacrerai les 3 heures de la journée à la prière. Oui, parce que souvent, on a beaucoup à faire, commençons par passer du temps avec Dieu. Pasteur Yon Guichot, il dit pareil, plus tu travailles à fournir, plus je passe de temps avec Dieu en sa présence. Il avait compris l'art de bien gérer son temps, parce que quand on a passé du temps en présence de Dieu, là on aurait passé des heures à résoudre le problème, dans nos démarches et tout. Dieu est dans le coup, et il nous fait récupérer tout le temps qu'on a passé. C'est comme ça. Hein. Bon là, il y aurait beaucoup de témoignages à donner. Pense à Jésus, matin, tôt, il était levé pour son père, le soir tard, il passait du temps avec. Et ça, c'est le deuxième conseil aussi, comprenez quelle est la volonté de Dieu, verset 17. Parce qu'il faut être à l'écoute. Le maître, c'est lui. Il a son planning, il va nous envoyer travailler là où il a décidé. Encore faut-il donc être à l'écoute et être dans son projet. Même si parfois, je n'avais pas prévu. Bon, certains n'ont peut-être pas prévu qu'il y ait une heure de jeûne et prière, un temps de prière, disons, après le culte. Si vous avez d'important à faire, hein, si vous êtes disponible, peut-être que Dieu dit, tu consacres une heure à prier tes frères et sœurs. Pourquoi pas? C'est sûrement dans le plan de Dieu, à chacun de décider. Mais c'est comme ça qu'il faut dire, ah oui, c'est peut-être pas le moment d'aller me promener, je peux passer une heure avec les frères et sœurs à prier. Prier pour la mission, notamment. Bon. Vous devriez dire, si Dieu le veut, nous vivrons, franchement, si cela, c'est Dieu qui dispose. L'homme propose, mais Dieu dispose. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Eh oui. Donc faisons des projets, hein. Attention. Il n'y a rien de répréhensible, il faut faire des projets. Parce que si vous ne proposez rien à Dieu, il ne disposera de rien. L'homme propose, Dieu dispose, c'est vrai. Mais il ne faut pas croire que l'homme hyper spirituel, c'est celui qui laisse à Dieu, qui laisse souffrir à Dieu. Non, on doit prévoir. D'accord. Il faut gérer le temps, donc on fait des projets, mais Dieu nous dira quand c'est le moment d'entrer dans ces projets. Donc il faut être patient. Eh oui, Dieu m'équipe, il m'utilise, et quand c'est le moment, il m'envoie. Pensez à Moïse, hein. 40 ans à la cour de Pharaon, 40 ans à garder les brebis de son beau-père, les troupeaux de son beau-père, chez trop. Est-ce qu'il a perdu son temps pendant 40 ans? Non. Et au bout de 40 ans, maintenant, tu retournes libérer mon peuple. C'était 40 ans, prévu par Dieu. Pensez à Joseph, dans sa prison, 13 ans. 13 ans en prison. Voilà. Eh oui. Mais c'était des ans perdus? Non. Dieu fait que toutes choses concourent bien de ceux qu'il aime, y compris, eh bien, dans les autres choses, c'est les heures passées, des fois, ben, qu'est-ce que je fais là, à se poser des questions. Joseph dira, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Donc, on a souvent l'impression de perdre notre temps, peut-être très plus utile d'ailleurs, mais si on est vraiment en bonne relation avec Dieu, dites-vous, Dieu va utiliser ce temps conformément à ses plans. Semons, laissons pousser les graines, nous moissonnons au temps convenable. Semons la parole, nous moissonnons au temps convenable. Mais quand c'est le moment d'y aller, il faut être patient, quand c'est le moment d'y aller, il faut y aller là. Là, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas laisser passer la grâce, c'est le moment, on y va. Il ne faut pas dire demain je fais ceci, demain je fais cela.
Non,
c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Demain, ce n'est pas trop tard. Proverbe 27.1, nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Et demain, soir, c'est trop tard. Et le troisième conseil, c'est que tout concourt à la gloire de Dieu, c'est-à-dire toujours dans Éphésiens 5, c'était verset 19 et 20, non, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, en décontinuellement grâce à Dieu, on doit glorifier Dieu. C'est ce pourquoi, d'ailleurs Dieu nous a donné la vie, ce que j'ai créé pour ma gloire, on doit glorifier Dieu. Paul dira que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc ça c'est notre vocation, c'est ce qu'on fera éternellement. Eh oui. Donc, toujours nous assurer, est-ce que je suis en train de glorifier Dieu dans la façon dont j'utilise ce temps qu'il me donne? Ça va? D'être patient, c'est bien. Vous êtes patient, d'ailleurs. Oh, première qualité. Bon, après. Et je vais terminer maintenant, simplement en vous disant que nous pouvons, devons acheter le temps. Mais il y a un côté impératif. Et là, je suis rapide, rassurez-vous. On doit. Pourquoi? Le temps est court. Vous l'avez compris. Il court, il court. Bon. Ensuite, les temps sont mauvais. Et là, regardez autour de vous. Bon, hein, tout ce qui se passe dans le monde, j'en dis pas plus. Les temps sont mauvais. Hein. Et tout se met en place vraiment, bon, hein, pour le gouvernement mondial et tout. Bon, hein. Que ce soit l'enlèvement d'église, la grande tribulation, l'autogorée, tout ça, ça se met en place. Bon. Mais les temps sont mauvais. Il en sera comme le temps de Noël, on pourrait dire. Le temps est proche. Et la moisson est grande, il n'y a pas d'ouvrier. Matthieu 9, 31. Jésus en fait grand temps. Donc ça veut dire que maintenant, c'est vrai que par Internet, beaucoup peuvent entendre le message. Beaucoup. Mais il y a quand même tous les jours des milliers de personnes qui meurent sans avoir quand même entendu parler du salut en Jésus. Et Dieu continue pour le dire. Il veut faire de nous des instruments de sa grâce. Donc ne gaspillons pas ce temps si précieux qu'il nous est donné. Et prions le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et prenons le temps, et c'est ce qu'on fera tout à l'heure aussi, ça sera un des sujets de prière, prions Dieu d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et n'hésitons pas à entrer nous-mêmes dans cette moisson. Saisissons les occasions favorables et rachetons le temps. Et comme j'avais dit qu'on relirait la fin du psaume 90, je vous invite à le refaire, que ce soit notre prière aussi. On va le lire comme une prière à Dieu. Donc, psaume 90, verset 13, « Reviens éternel jusqu'à toi. Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. » Donc, on le voit à travers ces versets. On doit s'attendre à ce que Dieu nous rassasie chaque matin de sa bonté, qu'on soit toujours dans la joie et l'allégresse, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et à la fin, il veut faire son œuvre, mais en fait, à travers l'ouvrage de nos mains. Dieu veut se servir de ce qu'on fait pour effectivement se glorifier. Voilà. Bon, j'ai peut-être été un peu long, c'était subjectif, je ne sais pas, en fait. Mais je crois que c'est important. Ça, il y a beaucoup à dire. Hein. Une fois, j'avais fait, vous dites, on peut faire 3-4 messages sur le temps. Bon, hein. J'ai voulu axer plus sur le fait de racheter le temps, mais racheter précisément dans cette optique de profiter de toute occasion pour témoigner à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que la présence de ce frère missionnaire, nous encore, que ce soit un encouragement pour nous, qu'on priera Dieu qu'il ouvre des portes sur Paris, c'est vrai, que c'est une idée, pourquoi pas, à travers la galerie d'art, le tableau, ça évoque la beauté, Dieu est un artiste, et oui, bon, il y aura beaucoup d'occasions, en contemplant tout ce qui a trait à l'art, ça mène sur Dieu, c'est vrai. Bon. Et je crois que chacun soit donc interpellé aussi dans notre quotidien. Dieu nous met en contact de gens. Si on ne sait pas, dis-moi comment, parce qu'il y a des gens, on les voit souvent. L'autre jour, j'avais rendez-vous avec un médecin qui est une femme. La dernière fois, quand j'ai quitté, j'ai dit, ah, j'aurais dû lui poser la question, est-ce que vous croyez en Dieu et tout. Je ne la vois pas souvent. Et j'ai dû y retourner, un mois après. Et là, je peux vous dire, je suis préparé. qui est là. Je ne suis pas gêné d'ailleurs en fin de consultation, je voudrais poser une question. Vous pouvez consacrer votre vie à soigner les gens, est-ce que vous croyez en Dieu? Bon. Il dit, ah, ça peut aider, je sais ce que la foi. C'est bon. Et en fait, j'ai passé. Bon, le temps qu'elle m'a laissé, parce qu'après, bon, elle, mais j'ai été convaincu. Merci Seigneur, la question elle est posée, bon, on le connaissait depuis longtemps, il faut poser la question. Et je le fais, j'ai deux professeurs que je rencontre dans la rue maintenant. Je vous assure qu'ils savent que je suis chrétien. Il y en a un qui s'appelle Emmanuel. Je dis, alors je lui pose la question en consultation. Et c'est quand même dommage d'avoir un prénom qui s'appelle Emmanuel parce que je lui dis, est-ce que vous êtes croyant? Il me dit, non, je ne crois pas. Je dis, c'est quand même dommage d'avoir un prénom comme Emmanuel. Vous ne croyez pas en Dieu, vous savez ce que dit Emmanuel? Bon, les parents devaient être croyants, ils ne l'étaient pas. Et vous savez, on a des occasions. C'est pas pour autant, mais la graine, elle est semée. On a dit, on revient retravailler si on a l'occasion. On a dit, non, mais que Dieu arrose, et puis autant qu'on a, on va semer. Mais que ce soit un encouragement. C'est pas ce message, il pourrait des fois mettre une pression. Voilà, ça va vite, etc. Non, non. Relax, on fait confiance à Dieu. Donc, priorité, on maintient une bonne relation, puis Dieu va servir de nous. Souvent, ça précube, on verra comment on est utilisé. Mais au moins, il y a un cœur bien disposé. Je sais pas, il n'y a pas possibilité de rechanter le chant qu'on avait chanté, sinon bon, c'est pas grave. Parce que quand on a chanté le dernier chant, j'ai dit ce serait bien, c'est pas grave, c'est pas une obligation, on aurait pu en faire une prière aussi, parce que le dernier chant de la louange, c'était vraiment tout à fait, ça dirigeait vraiment nos cœurs, parce que le fait qu'on disait à Dieu, ben, tu utilises ma vie comme tu veux. C'est pas grave, on va prier quelques instants, puis je vais vous libérer. Seigneur, bien, merci encore pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci vraiment pour les projets que tu as pour chacun. Merci de nous aider, Seigneur. Chacun, dans ce que nous vivons, à racheter ce temps, à pouvoir l'utiliser d'une manière bien, sur laquelle tu puisses mettre ton sceau, Seigneur. Que qu'on puisse vraiment entrer dans tes œuvres, Seigneur. Qu'on puisse être sensible à ton Saint-Esprit, surtout, Seigneur, qui va nous guider, qui va agir au travers de nous, Seigneur. C'est ce qu'on te demande. Vraiment, c'est merveilleux de savoir aussi que, eh bien, on a devant nous une éternité qui est quelque chose de formidable, Seigneur. Et on y va petit à petit. Bon, c'est toi qui décides, mais qu'on vive toutes ces choses dans la paix, Seigneur, et dans la joie de te connaître, et dans la joie de te voir agir, Seigneur. Merci de venir tous les frères et sœurs qui sont là, et que leur temps soit mis à profit par chacun pour toi, et te rendre gloire, au nom de Jésus. Amen.